France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Si Claude Jean-Philippe a été un grand passeur télévisuel de cinéma durant près de 25 ans, il a aussi été, durant près de 10 années sur notre chaîne, le producteur d'une émission hebdomadaire, Le cinéma des cinéastes, dont le premier numéro fut diffusé en février 1976. C'est cette première du cinéma des cinéastes que nous allons entendre. L'invité en était François Truffaut, alors au montage de son film « L'argent de poche ». François Truffaut évoquait là ses premiers souvenirs de spectateur de cinéma, enfant durant les années de guerre, marqué notamment par Le Paradis perdu d'Abel Gance avec Micheline Prel et Fernand Gravet. En ouvrant cette première émission, Claude Jean-Philippe annonçait ce qu'étaient ses ambitions. Faire tomber la barrière entre ceux qui faisaient le cinéma et ceux qui en étaient les spectateurs. Faire partager à ses spectateurs un peu de l'intimité de la création des films et être une passerelle entre les générations. Et justement, dans cette première édition du cinéma des cinéastes, il avait invité de jeunes étudiants de l'IDEC à venir parler des films qu'ils avaient vus et de ceux qu'ils aimeraient voir. Parmi ces étudiants, Caroline Champetier, qui devait par la suite faire parler d'elle comme directrice de la photographie, et Pierre Donadieu. Tous les deux allaient d'ailleurs s'installer pour quelques années aux côtés de Claude Jean-Philippe dans le cinéma des cinéastes. Le cinéma des cinéastes de Claude Jean-Philippe, premier numéro, diffusé la première fois, le 1er février 1976, sur France Culture.
Le cinéma des cinéastes, c'est aussi bien entendu celui des spectateurs. Ou plutôt cela devrait être celui des spectateurs. Cette émission n'a pas d'autre ambition que de faire tomber la barrière, le faux écran qui nous sépare du cinéma tel qu'il est vécu journellement par ceux qui en font. Du cinéma tel qu'il s'éprouve. Je veux dire, comme preuve et comme émotion, chaque fois qu'un homme ou une femme braque une caméra pour isoler un pan de la réalité. Le cinéma des cinéastes tentera donc de nous faire partager un peu de cette intimité où naissent les images et les sons des films à venir. Au-delà, et en deçà de l'analyse et du jugement critique, nos libres conversations avec les cinéastes comme avec les spectateurs chercheront à tisser les liens d'une vraie complicité et pourquoi pas d'une connivence sans laquelle il n'y a pas de connaissance d'une personne ou d'une œuvre. Le cinéma des cinéastes tentera aussi de jeter une passerelle entre les générations, ou tout au moins de lire le présent du cinéma en fonction de son passé et de lire son passé en fonction de son futur. Là encore, en deçà et au-delà de l'exposé historique, ce sont des histoires personnelles, singulières, qui vous seront contées. Histoire d'une rencontre, d'une passion, d'une réflexion, histoire d'amour, en somme, de cette personne-ci, avec ce cinéma-là. Ces histoires diffusées en feuilleton, comme il se doit pour les histoires d'amour, nous fourniront la première rubrique de l'émission, une rubrique que j'ai intitulée en hommage à Jean Renoir, « Où finit la vie ?» Où commence le cinéma, mais qui pourrait s'intituler tout aussi bien « Où finit le cinéma ? Où commence la vie ?» Très préoccupé encore par le montage de son dernier film, François Truffaut a bien voulu accepter de nous raconter ses premières rencontres avec le cinéma dans les années de guerre, entre 1939 et 1945. À ce propos, je vous conseille très vivement de lire dans la collection 10-18 « Le cinéma de l'occupation et de la résistance » d'André Bazin, dont François Truffaut, justement, a rédigé la préface.
J'ai lu dans votre présentation du livre de Bazin sur le cinéma de l'occupation que votre premier film, vous l'avez vu en 1939, et c'était le Paradis perdu de Gans.
Oui, c'est ça, c'était Paradis perdu d'Abel Gans. Probablement, il y avait eu un film ou deux avant. Je me souviens d'une impression de cinéma permanent. Je me souviens d'un cinéma que je situe Place de l'Europe, bien que je ne pense pas qu'il y ait jamais eu un cinéma Place de l'Europe, mais peut-être était-il vers Saint-Lazare. C'était peut-être le Cinéac Saint-Lazare, je ne sais pas. Alors ça, c'est antérieur, peut-être que j'avais 6 ans. En tout cas, je crois à m'être trouvé dans cette salle avec ma tante, et je me souviens de très clairement d'être entré dans la salle noire pendant qu'il y avait sur l'écran des images d'un mariage. Et je me souviens très bien aussi que quand ces images sont revenues, c'est-à-dire probablement 2 heures plus tard, nous sommes partis. Et je trouve que c'est désastreux, j'en veux pas du tout à ma tante, mais je trouve que c'est désastreux, faisant découvrir le cinéma à des enfants, de les emmener au cinéma permanent, ou enfin d'entrer avec eux n'importe où dans le film. Ça, je trouve que c'est un désastre. Ça me fait penser à une histoire de Cocteau que j'aimais beaucoup. Il racontait l'histoire de l'enfant qu'on avait emmené voir Jeanne d'Arc et qui disait « C'est l'histoire d'une dame qu'on brûle et après elle devient bergère. » Alors voilà ma première impression de cinéma. Elle est gâchée par le parlant. Enfin, gâchée, non. Parce
par
que
le permanent, vous voulez dire.
Le permanent, c'est également, comment dirais-je, c'est également une émotion, évidemment, d'entrer dans une salle vide et que l'image soit déjà sur l'écran. C'est une chose difficile à comprendre aujourd'hui, enfin, difficile à saisir pour les jeunes gens d'aujourd'hui, que le cinéma avait le monopole des images. Il n'y avait pas d'autre occasion de voir des images en mouvement. Il n'y avait même pas de bande dessinée dans les journaux. Donc il y avait le monde de l'imprimerie, le monde de l'imprimé, peut-être des livres illustrés, mais les images en mouvement, c'était seulement le cinéma. Si bien que le cinéma, dans toute cette période-là, reposait, à mon avis, sur l'idée de variété. Le meilleur film, pas, j'exagère un peu, mais disons que le meilleur film était presque celui qui montrait le plus de choses, qui montrait poursuite de voiture, scène d'amour, des scènes d'extérieur, l'Afrique, l'exotisme, l'intérieur, l'extérieur, et la couleur quand la couleur est venue. Alors qu'aujourd'hui, où une heure de télévision nous donne tellement de variété, dans une heure de télévision, entre la publicité, le journal télévisé, un vague débat et un morceau de film, eh bien on a tout, on a du noir et blanc, du document, du reconstitué, du zoom, du cinéma direct, du cinéma voix off, du commentaire, du documentaire, de la fiction. Et à cause de ça, je trouve que le meilleur film aujourd'hui est celui qui réussit la concentration, c'est-à-dire qui réussit à absorber l'intérêt, à intéresser avec le minimum d'éléments possibles. Je suis persuadé de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les films offrant de la variété, pour moi, sont inintéressants. Et d'ailleurs, je ne vais pas les voir. Si je les vois, je m'en vais au bout d'un quart d'heure. Je ne m'intéresse à des films qui, le plus possible, n'ont qu'une seule couleur, par exemple, puisqu'on est en couleur, ou qu'un seul décor, ou que le moins de personnages possible, ou que, où il y a un effort de concentration, quoi. Parce que je crois quand même qu'on va au cinéma pour faire un contraste avec la vie quotidienne et aussi maintenant pour faire un contraste avec ce qu'on voit à la télévision.
Après l'expérience du cinéma permanent, il y a un souvenir quand même relativement précis qui est celui de Paradis perdu.
Alors celui de Paradis perdu, oui, parce que c'est une séance spéciale, c'est un événement, il y a beaucoup d'émotions dans la famille. Je crois que mon père a dû être mobilisé, il est là en permission. Et mes parents m'emmènent au cinéma, Palais Rochechouart plutôt. Et on voit Paradis perdu dans une salle bourrée et comportant énormément de soldats avec leurs femmes ou leurs petites amies. Et tout le monde pleure parce que c'est un film fantastique, un extraordinaire mélodrame. Et à l'intérieur de ce film, de toute façon, la situation que vivent les gens dans la salle se reproduit puisque nous voyons Fernand Gravé et Micheline Prel, jeunes mariés, jeunes amoureux, jeunes mariés, en voyage de noces, bord de la mer, peut-être c'est la Côte d'Azur, et on entend les cloches qui sonnent, et on voit les gens du patelin qui courent devant la caméra, et c'est la déclaration de guerre 1914. Alors vous pensez, l'émotion dans la salle était prodigieuse. Et puis cette beauté prodigieuse, rayonnante de Micheline Prel, et la musique, et la chanson. Thank you. C'est un morceau de film infaillible, c'est-à-dire je suis contre les morceaux de film présentés à la télévision, les séquences de spectateurs, les choses comme ça. Or, j'ai remarqué que quand la séquence du spectateur passe ce morceau de Paradis perdu, on pleure de la même façon, c'est-à-dire que même isolé du contexte, ce morceau est très fort, parce que Gans montre dedans toutes ses possibilités émotionnelles.
Et ça, vous avez été très sensible à cette émotion générale
Je crois que j'étais plus étonné qu'ému, je ne me souviens pas.
Vous aviez quel âge
Si c'est 39, j'avais 7 ans. Alors je crois que je voyais ça, si vous voulez, comme un enfant est rarement ému à un enterrement, même à l'enterrement de ses grands-parents, même à l'enterrement de sa famille, vous voyez, il a plutôt la surprise, il voit ça comme une pièce de théâtre, il voit ça, il voit les gens qu'il voit tous les jours, qui sont habillés bizarrement, il voit... je pense que j'étais dans cet état-là, j'étais surtout surpris par cette émotion que je sentais partout, mais pris par le spectacle quand même, et content, je me souviens que le film était long et que j'étais content qu'il soit long, c'est-à-dire évidemment je redoutais que ça s'arrête, une chose comme ça, puisque ça me plaisait, j'étais heureux d'être là.
Il y a cette chanson de Paradis perdu, mais j'ai une curiosité personnelle, est-ce que votre goût des chansons de traînée date de cette époque ou bien c'est venu plus tard?
Bon, non, c'est venu plus tard.
C'est venu plus tard.
Traînée, c'est venu à la fin de la guerre. À la fin de la guerre, tout d'un coup, les cinémas n'ont plus été approvisionnés. Je suppose que les maisons de distribution ont dû fermer. Et il y a eu quelques mois sans cinéma qui ont été assez durs à supporter. Et alors, on a ouvert, les Américains étaient à Paris, les Allemands étaient partis. On a ouvert les cinémas pour en faire des music-halls. Et on a vu tout le monde, tous les chanteurs appliqués dans les cinémas. Et Charles Trenet, qui pourtant était très connu, était sûrement une vedette de la chanson, lui est passé au Comédia, à côté de la Cigale, là, en face du Cirque Medrano, sur le boulevard Rochechouart. Et il a chanté là pendant une semaine ou deux. Et je suis allé le voir, comme j'avais l'habitude d'aller dans le cinéma. Je suis allé, j'ai dit, bon, c'est pas du cinéma, mais je vais quand même. Et il y avait Charles Trenet, et il avait évidemment des chansons, là aussi, qui étaient en coïncidence avec la période historique. Il y avait Douce France, par exemple, et je pense qu'il y avait Que reste-t-il de nos amours. Alors c'était, il y avait une émotion à le voir. Je l'avais déjà entendu, puisque pendant la guerre, on a entendu beaucoup de chansons. Hein. Les deux choses florissantes de la guerre ont été le cinéma et la chanson. Puisqu'on vendait encore les chansons dans la rue. C'était courant de voir une chanteuse, un accordéoniste, et puis on vendait la chanson papier. Et ma mère rentrait en général avec des chansons papier. Elle avait toujours des gens à acheter les chansons papier, ils les apprenaient chez eux.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi.
Après Paradis perdu commence pour vous l'époque de l'école buissonnière et du cinéma clandestin, je veux dire.
Oui, il y a d'abord eu quelques films en famille quand même, quelques films que je suis allé voir en famille, principalement au cinéma Roxy, qui était également dans le haut de la rue Rochechouart et qui avait des attractions. C'était un cinéma, on passait louer sa place, je pense, dans l'après-midi pour le soir, le samedi après-midi pour le samedi soir, alors on avait la place retenue. Et là, au Roxy, je me souviens d'un film de Christian Jacques qui s'appelle Le Grand Élan. J'ai perdu les images de ce film, à part Maurice Baquet descendant l'escalier d'un hôtel avec sa paire de skis. Et un autre film peut-être intéressant, tiré d'une pièce de Louis Verneuil, qui est Mademoiselle ma mère, qui me plaisait parce qu'il y avait une situation là d'un jeune type qui était amoureux de la femme trop jeune qu'épousait son père, la seconde femme de son père. Et j'ai acheté la pièce depuis dans la petite illustration, mais j'ai pas eu le temps de la lire encore. Et voilà, ça c'est à peu près les films dont je me souviens de ce moment-là. Avant Visiteurs du soir, oui, qui a marqué alors, le début, si vous voulez, le début de cinéphile pour moi, parce que c'était un film important.
À quel âge? Alors, Visiteurs du soir, c'est quand?
Je me suis trompé dans mon livre, je me suis trompé d'un an, alors je ne sais plus si c'est l'hiver 42 ou l'hiver 43. En tout cas, c'est ça, j'avais 11 ans par là, 11-12 ans, 10 ou 11. Et les visiteurs du soir, probablement, c'était un événement parce qu'on en parlait, comment dirais-je, je l'ai vu au cinéma Pigalle, mais comme il avait fait une très longue exclusivité, j'ai dû le voir probablement plusieurs mois après sa sortie, si bien qu'il devait y avoir une espèce d'impatience, une curiosité de ma part. Et quand il est passé au cinéma Pigalle, donc je suis allé l'après-midi en séchant l'école pour, comme ça, pour avoir vu les visiteurs du soir. Bon. Et puis le soir, ma tante est passée à la maison, elle dit j'emmène François au cinéma, et qu'est-ce qu'on va voir? Bon, on va au cinéma Pigalle, on va voir les visiteurs du soir. Je n'ai pas osé dire que je l'avais vu l'après-midi même. C'était donc là l'émotion particulière de voir un film deux fois dans la même journée. Et il faut croire que ça m'a plu, puisque c'est à partir de là que je me suis mis à revoir tout le temps les mêmes films, c'est certain. C'est-à-dire que j'avais le plaisir de voir des films nouveaux, mais j'avais aussi un très grand plaisir de voir des choses que je connaissais, pour les connaître mieux, je ne sais pas dans quel...
Est-ce qu'on peut dire que la cinéphilie commence là, quand on éprouve le besoin de revoir un film? C'est-à-dire que quand la magie du récit... s'éteint du fait qu'on connaît la fin, qu'on connaît les péripéties. Est-ce que le goût du cinéma pour lui-même vient là, à votre avis?
Bah oui, parce qu'on pourrait dire que c'est un stade qui est, comment dirais-je, qui est au-dessus de la consommation, ou alors que c'est une autre qualité de consommation, voilà. Hein, puisque c'est ça le cinéma, c'est souvent... Moi ça me fera beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, des films de consommation, il y a des films dont on pense, tout le monde va les voir, tout Paris va les voir, et on voit d'après le genre du film que dans deux ans ces films-là n'auront plus de valeur, que personne n'aurait l'idée d'aller revoir un film comme ça, je ne vais pas citer le titre. Mais ça m'étonne toujours, et je trouve même que c'est une certaine modestie de la part de ceux qui le font, parce que je crois qu'ils en sont conscients en le faisant. Quelquefois, le titre même indique que c'est une chose de consommation courante. Et à ce moment-là, je me dis, c'est formidable, ce type qui travaille. C'est une modestie, parce que c'est du travail comme du journaliste à ce moment-là. C'est l'idée que c'est un film qui pourrait être consommé et jeté. Mais enfin, ce n'était pas le cas à cette époque-là. Quoique si, ça a dû toujours exister.
Les Américains ont toujours eu l'impression que leur film était fait pour plaire dans l'instant même.
Ah oui, les Américains découvrent maintenant l'importance des archives, ils sont très étonnés de voir, bien sûr, oui, ils n'ont découvert l'importance des archives qu'avec le Autant n'emporte le vent, qui a été le premier négatif qu'on s'est correctement conservé en Amérique. Mais maintenant, ils sont très conscients de ça, oui.
Alors, revenons à l'occupation. Est-ce qu'on peut dire que l'enfant des 400 coups, c'est un peu vous, enfin, cet enfant qui sèche l'école pour aller au cinéma?
Ah oui, si je faisais les 400 coups maintenant, il est hors de doute, enfin pas maintenant cette année, parce qu'il y a cette vogue des films d'occupation qui me gênerait, mais disons que si j'avais été confortable faisant les 400 coups C'est d'ailleurs pas seulement une question de confort, non. J'allais dire qu'en 1958, j'aurais pu faire les 400 coups dans sa vraie époque, c'est-à-dire comme un film se situant à l'année de la Libération. Mais c'est pas tout à fait vrai parce que le recul n'était quand même pas assez grand. La différence, la vraie coupure de la société française, elle a quand même été marquée par le retour de Gaulle, hein, par 1958-1959, et je trouve visuellement par la décision de Malraux de blanchir Paris, parce qu'il y a vraiment Paris avant-après. On voit bien quand Franju a voulu faire Thomas l'imposteur, il était embêté d'avoir Paris tout blanc. Il y a vraiment une coupure là. Alors disons que à partir du blanchiment de Paris, c'est devenu très difficile de faire de montrer Paris comme il avait été avant. Mais évidemment, la chose bizarre des 400 coups, c'est que c'était une réalité pour moi de 1945 que je filmais comme si elle était d'aujourd'hui en 1958 et que c'était mes 14 ans que je filmais à 26. Voilà, ce qui fait que c'est ce genre de film qui aurait été différent, fait deux ans avant et fait deux ans après. Et j'ai l'impression donc d'avoir manqué un film, d'avoir manqué un sujet, de ne pas avoir traité l'histoire d'un enfant pendant la guerre. Ça, c'est vrai que c'est une espèce de gâchis là, mais maintenant c'est trop tard parce qu'il y a cette mode dans laquelle je ne veux pas entrer. Et puis aussi parce que quand même ce sont des péripéties qui sont à peu près les mêmes que celles des 400 coups, disons. Et puis, de toute façon, c'est pas important, on peut faire ça. On peut y revenir un jour ou l'autre.
Des monts et merveilles, vents et marées, au loin, déjà la mer s'est retirée. Et toi, comme une algue, doucement caressé par le vent, dans les sables du lit, tu remues en rêvant démons et merveilles, vents et marées, au loin déjà la mer s'est retirée.
Alors, donc, vous voyez les visiteurs du soir deux fois dans la même journée. Ce qui provoque un premier goût pour le cinéma.
C'était le plus grand événement, les visiteurs du soir. C'était le film dont on avait le plus parlé. Je lisais beaucoup les journaux. Je lisais les journaux que lisaient mes parents, des hebdomadaires, des quotidiens. Je lisais et puis j'entendais parler de cinéma autour de moi. Et les visiteurs du soir, c'était, je ne sais pas moi, comme le tango à Paris il y a deux ans, si vous voulez. On en parlait d'une façon extra-cinématographique. On en parlait même dans la cour de récréation, où les professeurs en parlaient, on en entendait parler. Alors il y avait par exemple une polémique assez vaine, mais enfin, disons que autant on a parlé de la mode de beurre du tango, et ben on parlait du château des visiteurs du soir. Il y avait ceux qui trouvaient que c'était du carton-pâte, ceux qui trouvaient que c'était trop blanc, ceux qui disaient mais il a bien fallu que les châteaux soient neufs un jour, donc les auteurs ont eu raison de filmer un château neuf. Donc voilà, ça c'était les polémiques, plus les blagues autour d'Alain Cuny, qui était quand même un acteur spécial, qui commençait à ce moment-là. Il était, je pense, il supplantait un peu Jean Marais à ce moment-là, ou du moins il devait être en compétition avec lui pour un certain genre de rôle de beau jeune homme poétique. Il était un peu plus ténébreux, un peu plus mystérieux que Jean Marais. Mais Alain Cuny faisait énormément rire les chansonniers, on parlait beaucoup de lui, on se moquait de sa diction parce qu'il parlait très lentement. Et il y avait beaucoup de blagues là-dessus. Alors c'était ça, les visiteurs du soir. Moi, ça, le film m'en avait mis plein la vue, parce qu'il y avait simplement quelques trucages. J'étais épaté par le diable, j'étais épaté par le côté flou. J'aimais beaucoup ce qui était trouble, ou j'aimais beaucoup... C'est-à-dire que probablement, les choses ambiguës que je voyais autour de moi, liées à la guerre, mais aussi à la situation de ma famille, me portaient vers les choses ambiguës. Je n'aimais pas Je n'aimais pas ce qui était... Je n'aimais pas la cage au rossignol, disons, qui était présenter les petits chanteurs à la croix de bois, des conflits de morale courante. J'aimais les films qui troublaient, j'aimais les films qui étaient subversifs et qui remettaient en question la morale. Ça, certainement, il y avait une très grande attirance pour moi là-dessus. Ce qui m'a amené, d'ailleurs, à découvrir après un autre film dont le choc était plus important, c'était Le Corbeau, parce que Les visiteurs du soir, ça me plaisait, ça m'épatait. Mais le film qui m'a comblé, c'est Le Corbeau, quand même. Parce que là, j'ai eu l'impression que c'était le premier film que je voyais qui disait la vérité sur la vie. Que tout le monde était pourri, que tout le monde était dégoûtant, et que c'était un film incroyable. Et que j'aime encore beaucoup aujourd'hui, je dois dire. Je trouve qu'il tient mieux le coup à travers les années que Les visiteurs du soir, qui est vraiment maintenant un morceau de... c'est une pièce de musée, On regarde... avec plus ou moins de plaisir selon les dispositions qu'on a en le voyant, mais on ne peut pas penser qu'on voit un film qui tient le coup, alors qu'on peut voir Les Anges du Péché, qui est de la même époque, comme si le film avait été fait aujourd'hui, pratiquement.
Et Les Anges du Péché, vous l'avez vu à cette époque-là aussi ?
J'ai dû le voir plus tard, non, parce que je n'ai pas de souvenir d'époque. J'ai dû le voir beaucoup plus tard. J'ai dû le voir plus tard. Peut-être le fait que c'était des bonnes sœurs m'a écarté. Je veux dire, peut-être que je ne suis pas allé pour ça. Vous voyez, il y avait quand même le matériel. À un certain moment, quand je savais ce qu'il y avait dans le film, je jugeais. Le nom du metteur en scène disait encore pas grand-chose, à part Carnet, peut-être. Mais il y avait. Donc, j'y allais en fonction du contenu. Et j'ai dû retarder de voir Les Anges du Péché parce que ça ne devait pas me convenir.
Alors, est-ce que vous pouvez situer, relativement précisément, le passage du goût pour le cinéma, enfin, de l'envie d'être un spectateur de cinéma, et à la vocation, je veux dire, pour la critique, avec l'idée d'en faire vous-même un jour, enfin.
Oui, ça, je ne sais pas, c'est beaucoup plus tard. Hein. Ça, c'est
beaucoup plus tard.
Ça, c'est forcément après la guerre. Parce que pendant la guerre, je me voyais volontiers comme un futur romancier. Je lisais, j'avais été très frappé par la lecture de Thérèse Raquin. Et alors, je me voyais écrivant des romans. Je me voyais...
C'est dans Les 400 coups, puisqu'on voit, le Thiérault lire du Balzac.
Ah bah oui, dans tous mes films, les gens lisent et écrivent, ça c'est autre chose. Mais pour en finir avec l'occupation, je dirais que le plus grand souci quand on voyait un film pendant l'occupation, c'était la crainte que le film soit interrompu par les alertes. Parce qu'il y avait les alertes, et à ce moment-là, on donnait un ticket de sortie, et puis on allait à la cave du cinéma, et si l'alerte ne durait qu'un quart d'heure, ça va, on remontait et le film reprenait, mais si elle était plus longue, on était obligé de revenir une autre fois, quoi. C'était, voilà, et c'était ça la plus grande inquiétude.
Et il y a un sentiment tout de même qui est justement qui est lié à celui-là. Et pour ce qui me concerne moi, je veux dire, l'idée d'être dans un ailleurs au cinéma complètement, et l'idée que de temps en temps, on se dit mais la vie va reprendre après. Un peu comme une catastrophe. Vous n'avez pas éprouvé ce sentiment-là ?
Oh, ben bien sûr, oui, le cinéma était un refuge. Le cinéma était un espèce de refuge. Mais en même temps, pour qu'il fonctionne comme refuge, il fallait que les films ne soient pas trop loin de la vie réelle. C'est curieux, hein. Vous voyez, j'ai vraiment... au moment de la libération, tous mes copains en classe ne parlaient que de Zorro. Il y avait des séries, quoi. Il y avait un Zorro, je ne sais pas lequel, qui arrivait en 3 épisodes. Il devait y avoir plusieurs trucs qui arrivaient en plusieurs épisodes, comme ça. Et je n'étais vraiment pas attiré, parce que je ne les ai même pas vus, parce que je savais que je ne pourrais pas entrer dedans. S'il y avait l'idée, j'avais besoin d'entrer dans un film, et pour entrer dans un film, il fallait que les gens soient en imperméable. Ça faisait rien s'il y avait des revolvers, s'il y avait tout un univers de gangsters, parce que du moment que c'était moderne, il fallait donc qu'il y ait que ce soit moderne et que, si possible, qu'il y ait des
relations avec la vie réelle,
des thèmes et des thèmes affectifs, enfin des histoires d'amour. J'aimais beaucoup les histoires d'amour, les histoires et en général les histoires d'amour, elles étaient surimpressionnées, superposées à des histoires policières, c'était ou alors quelquefois des films romanesques tout court, purement romanesques, oui.
D'ailleurs, curieusement, j'ai noté dans votre vie, mais c'est dans votre livre plutôt, et c'est vrai, que le seul film qui donne à peu près le climat des rues pendant l'occupation, c'est Donne-moi tes yeux de Guitry, où on voit effectivement cette lampe de poche dont vous parlez dans votre livre.
Ah, parce que dans Donne-moi tes yeux, bah oui, parce que c'est très curieux, c'est très difficile de reconstituer l'occupation, et personne de ceux qui le font maintenant n'y arrive, à mon avis, parce que... René peut-être pourrait le faire, je ne sais pas, il faut suggérer, il ne faut pas essayer de reconstituer, mais ce qu'avait fait Guitry, mais je dois dire qu'il l'a fait pendant la guerre lui. Donc,
oui, mais directement, c'était en direct.
Voilà, oui, il ne se rendait pas compte, il transposait quand même, c'était en studio, c'était une espèce de solution ingénieuse, il montrait un homme qui raccompagne une femme, et il avait pris ce truc de la lampe de poche, effectivement, on rentrait chez soi à cause du blackout. Entre le métro et chez soi, s'il n'y avait pas la lune, on ne voyait absolument rien, on se foutait la gueule par terre, donc il fallait avoir une lampe de poche. Et alors, il a fait ce petit rond, ce cercle de la lampe de poche qui illumine le pied de l'homme et les pieds de la femme. Et on voit ces quatre pieds qui rentrent à la maison, qui se séparent. C'est très joli et pour moi, c'est la meilleure image. Finalement, cette chose de fantaisie qui ne devait pas beaucoup frapper à l'époque, pour moi, si on voit maintenant, ça donne la meilleure image d'un des aspects de la vie de l'occupation, le blackout.
Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolées. Pourquoi ? Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours ? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela, dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage, si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé, de mon passé.
De la nuit de l'occupation, il nous faut passer au jour d'aujourd'hui. Un jour qui tient à la fois du crépuscule et de l'aurore, selon notre degré d'espoir ou de lassitude. Mais notre espérance comme notre lassitude apparaissent bien suspectes face à la ferveur d'un jeune homme ou d'une jeune femme qui savent où ils vont. Moi aussi, pour ne rien vous cacher, il y a 20 ans, j'entrais à l'IDEC, à l'Institut des hautes études cinématographiques. Caroline, Pierre, Michel, Jean-Marc vont en sortir dans quelques mois. Que peuvent-ils nous dire du cinéma d'aujourd'hui tel qu'on le fait, tel qu'on le voit, tel qu'il se vit ?
Il est évident qu'un des problèmes majeurs du cinéma français à l'heure actuelle, enfin, l'un des problèmes, parce qu'ils sont nombreux,
C'est un problème de diffusion. Il y a une aide à la création, ce qu'on appelle une aide à la création avec le système d'avance sur recette, ce genre de choses, mais il n'y a pas d'aide à la diffusion. Et il y a actuellement, je crois qu'on peut dire sans exagérer, qu'il doit y avoir au moins une ou deux centaines de films intéressants qui sont dans les boîtes en France et qui ne sortent pas, et qui ne sont pas annoncés non plus à sortir. C'est un problème extrêmement grave, d'une part pour les gens qui ont fait ces films, et d'autre part pour les gens qui ne peuvent pas voir ces films.
Est-ce que vous pouvez citer quelques titres caractéristiques? 200, c'est énorme, on ne peut pas citer une liste.
Je ne sais pas s'il y en a 200, il me semble que si je cherchais vraiment sérieusement, je pourrais en trouver 200, effectivement. Mais c'est un chiffre que je lance comme ça, complètement au hasard.
Est-ce que vous avez les uns et les autres des titres en tête de films qui ont été tournés et qui n'ont pratiquement pas eu de diffusion?
Disons que moi je suis assez sensible à des films qui sont faits par des gens de ma génération, des gens qui sont passés par disons des itinéraires assez proches de moi et qui n'ont pas fait l'IDEC ou qui ont été refusés mais qui ont quand même persévéré. Moi j'ai envie de parler d'un film qui s'appelle Mimi et son désir, qui est passé à Grenoble dans le cadre du festival du court-métrage.
Attendez, j'ai pas entendu bien.
Il s'agit de Mimi et son désir, un film de Michel Bolles. C'est un long métrage, un film d'1h10. C'est un film qui a reçu un succès d'estime dans le cadre de festivals, manifestations, à Grenoble, au Palais de Chaillot, et qui a toutes les difficultés d'être diffusé. Et pourtant, c'est un film qui interpelle directement les spectateurs potentiels, c'est-à-dire en fait, si ce film sortait, mettons, ne serait-ce que dans des circuits d'art et d'essai au quartier latin, j'estime que ça serait un grand pas, parce que c'est un film qui parle directement des problèmes des gens, c'est l'histoire d'un couple, et c'est la double histoire d'un couple, puisque c'est en même temps l'histoire d'une fille et d'un garçon qui ont notre âge, qui ont un enfant, qui se heurtent à des problèmes de liberté, de désir entre eux, et c'est en même temps l'histoire d'un autre couple qui est le couple filmant-filmé. C'est-à-dire que la relation du réalisateur et de son dispositif cinématographique, incarné par la caméra, le magnétophone, interfère sans arrêt et provoque des réactions, catalyse des réactions, et formellement, et ça donne un film d'une densité très très grande.
Caroline, vous avez un film, enfin, ou des films que vous connaissez pour les avoir vus et qui ne sont jamais sortis, comme on dit?
J'en connais, mais j'ai beaucoup plus envie de parler d'un film qui est sorti, que les gens voient. Et...
Allez-y.
Je le cite abruptement, c'est le film de Chantal Akerman.
Oui.
Dont on parle beaucoup et ça me gêne beaucoup d'en parler après tellement de choses justes et pas justes qui ont été dites dessus. Ce que je pense, c'est que c'est un film qui s'adresse à un public déterminé, qui est en tout cas un public féminin, et que pour plein de raisons, qui sont le fait que, d'une certaine manière, il tient un langage cinématographique parfaitement et totalement particulier. Il est d'autant plus difficile à des femmes, pour les raisons qu'on sait, de s'y attacher profondément. La première chose que j'ai envie de citer, et qui est très très important pour moi, c'est que c'est un film ennuyeux. Et d'une certaine manière, je sais, je sens et que les femmes, dans leur vie quotidienne, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, chez elles ou dans l'entreprise ou dans des endroits où la vie peut être pressante et dense, que les femmes s'ennuient. Et qu'il y a un rapport au silence, à toute une vie secrète et fondamentalement féminine, qui dans ce film transparaît avec une violence, une intelligence écrasante, et qui prend des formes cinématographiques très très précises. Et c'est ça qui m'a le plus étonnée, séduite, et dont j'ai le plus envie de convaincre les gens. C'est-à-dire qu'un film, c'est un film qui se constitue en une succession indéfinie de plans fixes, où on voit Delphine Seyrig qui joue une femme belge, veuve, qui a un fils pas excessivement motivant du point de vue pédagogique, évoluer dans son intérieur, éplucher ses pommes de terre, vivre un univers carcéral qui est celui de toutes les femmes, pas forcément chez elles, partout, dans leur vie affective, dans leur vie donc quotidienne. C'est un film qui dure 3h20. Déjà ça, c'est très très important. On pénètre lentement donc dans cette espèce d'ennui fondamental que les femmes vivent chez elles. Et puis, à cause d'une histoire idiote, une histoire de patates qui ont trop brûlé, petit à petit, la mécanique parfaite se déglingue. Et on en arrive à, pas comme dit Charlie Hebdo de façon très très drôle, des chaussures épluchées et des patates cirées, mais on en arrive à une lente désintégration du quotidien. Et cette femme, pour nourrir son homme qui est donc son fils, reçoit de 5 à 9 des vieux monsieur auxquels elle fait plaisir.
Pas tous vieux. J'ai vu le film avant-hier, ils sont pas tous vieux.
Effectivement, le dernier n'est pas vieux en plus. Et le dernier, c'est le bon.
Est-ce que vous voulez déflorer le film jusque-là ?
Oui, je crois. Je crois parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'iront pas voir ce film parce que, d'une certaine manière, ils croiront qu'il ne raconte rien. Et ce film raconte ce qu'il y a de fantastique, c'est justement qu'une femme complètement enfermée dans la carcéralité, à cause d'une histoire aussi idiote que ses patates, je le reprends, elle est en retard, le tour du pâté de maison qu'elle fait tous les soirs avec son fils, elle tient quand même à le faire, mais elle le fait plus tard que d'habitude, et ça, ça la marque. Tout se déglingue petit à petit, et le dernier homme qu'elle reçoit ce jour-là, qui est sans doute un jeudi de 5 à 9, ce dernier homme la fait jouir, et... elle en arrive à lui planter la paire de ciseaux qui était posée sur sa coiffeuse dans la gorge. Et il faut dire que, avant tout, il raconte une histoire. C'est important pour les gens qu'un film raconte une histoire. Mais plus que ça, il a des formes pour la raconter. Et contrairement à ces formes érigées, qui pour moi sont des formes... Je suis désolée d'employer des mots aussi compliqués ou, je sais pas, mais spécialisés que ça, qui sont des formes phalliques comme le zoom et comme les espèces de regards qu'on nous impose au cinéma, qui sont donc justement ces zooms, ces mouvements, ces travelling, même si je condamne pas le mouvement au cinéma parce qu'il est mouvement. Ces plans sont des plans parfaitement fixes où tout se constitue comme dans un tableau, un cadrage où Delphine Seyrig évolue. Et c'est très très important pour moi qu'une histoire de femme racontée par une femme se formule de cette façon non érigée. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que, encore une fois, me situant complètement dans la travée godardienne, c'est important aussi que cette vie, la vie de cette femme, soit racontée dans l'ici, dans l'endroit, dans la boîte où elle vit, et pas comme on aurait pu le faire, parce qu'on aurait pu raconter cette histoire qui est différemment, c'est-à-dire nous emmener voir son fils à l'école, voir ce qu'il faisait avec le fric qu'elle lui donne tous les jours. C'est une histoire très, très curieuse. Un petit flashback sur le fait qu'elle a perdu son mari très jeune, qu'elle était vraiment belle et qu'elle aurait pu, etc. Eh bien non, tout se passe entre cette cuisine, cette salle de bain et ce faux living room où il y a un lit pliant. Cette chambre à coucher. Et tout se passe, comme à mon avis, et ce qui se passe, c'est d'une certaine manière la révolution. Donc tout se passe parfaitement secrètement et même si ça éclate à la fin, comme ça doit se passer dans la tête, dans le cœur et dans le ventre de beaucoup de femmes.
Jean-Marc, alors, est-ce un film qu'on n'a pas vu ? Est-ce un film maudit, enfin, comme on disait jadis ? Ou est-ce que c'est un film qui est sur les écrans aujourd'hui, que vous avez envie de... que vous n'avez pas envie de conseiller, enfin, puisqu'il ne s'agit pas de jouer les critiques, mais il s'agit de faire comme Caroline, c'est-à-dire de donner un point de vue... à la fois personnel, mais en même temps, je crois que les points de vue personnels sont les plus intéressants, parce que ce sont ceux-là qui font apparaître les choses importantes pour les autres, je crois.
Je sais pas, moi, j'aurais a priori pas envie de défendre ou de parler d'un film. J'aurais presque envie de parler, je sais pas, d'une exposition, d'une pièce de théâtre, d'une activité qui me paraît... qui peut paraître étrange parce qu'elle est extérieure au cinématographe, parce que c'est pas des... on rentre pas dans une salle, on se met pas dans le noir, on regarde pas des images qui défilent sur un écran blanc... Mais peut-être, je sais pas, 6 personnes autour d'une table pour le Catherine de Vitesse ou j'en sais rien, le précepteur qui a monté il y a un an et demi Sobel, ou des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que j'exclurais les films. Ça veut dire, je crois que on doit, ça serait gênant pour un étudiant, a fortiori un étudiant de l'IDAC, d'avoir un regard spécialisé, spécialisant, donc restreignant sur le cinéma. Et puis bon, sur ces machins qui défilent à 24 ou 25 images secondes. D'abord aussi, il y a la télévision. La télévision, ça existe. C'est pas toujours idiot. C'est pas toujours empreint d'idéologie dominante. C'est pas toujours contraignant. C'est aussi émancipateur, d'une certaine manière, et pas toujours aux bonnes heures. Enfin, c'est des choses qui vont de pair et qui font que j'ai à la fois envie de parler de films et puis pas envie de parler de films. Et puis si j'avais envie de parler de films, ça serait pas non plus ni des films maudits, ce serait peut-être des films qui ont rencontré un immense succès, j'en sais rien moi, Les Damnés de Visconti, ou simplement pour moi Les Quatre Nuits d'un rêveur de Bresson, qui est quelque chose qui impose à la vision un regard nouveau. Mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être, j'en sais rien, une exposition Marquet, ça peut être une exposition Mayakovsky, ça peut être un concert, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une lecture. Et ça serait, j'aurais presque envie de dire, aujourd'hui, effectivement, il y a des choses intéressantes. J'ai envie de défendre Nashville. J'ai envie de, que beaucoup de gens aillent voir Nashville et que ça ne sorte pas au 3 Luxembourg. Il y a 25 places et encore une mauvaise projection. Peut-être parce qu'ils n'ont pas aussi les, le fric pour se faire une belle projection. Mais enfin, j'ai, et j'aurais presque envie de dire aussi, ben, écoutez, il y a un bouquin là, qui vient de sortir. Il paraît intéressant.
Lequel ?
J'en sais rien, il y en a 50, il y en a 250, il y en a 350, qui ne sont pas forcément des bouquins qui viennent de sortir aujourd'hui, qui sont peut-être sortis il y a 250 ans, et qui sont peut-être aussi sortis il y a 2 ans. Il y a un bouquin qui s'appelle « L'histoire de la peinture en 3 volumes » de Mathieu Bénézet. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a un bouquin qui s'appelle « Le passé composé » de François-Marie Bagnier, qui est quelque chose de fabuleux, qui brusquement nous projette dans un truc qui, à moi, m'apprend. Et m'apprend beaucoup. Alors ça, je trouve ça essentiel. Mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être la vie quotidienne qui m'apprend beaucoup. Ça peut être, j'en sais rien, le contact avec une certaine réalité, un certain nombre de gens, une certaine réalité politique, un certain militantisme qui peut passer par diverses aspects organisationnels ou autres. Enfin, j'aurais envie de parler de tout ça et pas d'un film spécifique... Ou même d'une série de films.
Je crois que vous avez parlé admirablement du cinéma, en réalité, parce que c'est vrai. Enfin, je veux dire que ma génération a été cinéphile. Enfin, je veux dire qu'elle a été très spécialisée, qu'elle a aimé le cinéma pour lui-même, et que c'est à travers le cinéma, finalement, que beaucoup d'entre nous ont découvert les autres arts. Enfin, on lisait, bien sûr, mais on allait peu au théâtre, on allait peu voir de peinture, et c'est sans doute à travers le cinéma que beaucoup d'entre nous ont découvert les autres arts. Donc on est parti du cinéma. Alors précisément l'objet de cette émission, le cinéma des cinéastes, c'est de sortir le cinéma de sa spécialisation. C'est-à-dire c'est d'essayer de le rendre à son vécu.
Pour revenir à votre question de départ, les films qu'on a envie de voir aujourd'hui, genre que, moi il y a des masses de films que j'ai envie de voir aujourd'hui. Il y a des films qui passent actuellement, et là j'ai 3 exemples, enfin qui passent ou qui ne passent plus, mais qui ont passé récemment. Il y a La Cecilia qui passe actuellement, le premier film de Jean-Louis Comelli. Et il y a 2 films qui sont passés, un qui passe encore, qui doit passer dans une toute petite salle, qui est Milestones, le film de Robert Kramer, qui est un film remarquablement important aussi, et un film qui ne passe plus du tout, qui lui a dû faire le plus petit nombre d'entrées de l'année à Paris, qui est Moïse et Aaron de Jean-Marie Straub, qui pour moi est un grand chef-d'œuvre. Enfin, c'est un film important, même dans l'histoire du cinéma. Je n'hésite pas à m'engager sur ce plan. Ça, c'est des films qui passent actuellement ou qui sont passés, donc. Et il y a aussi des monceaux de films. D'une part, les grands classiques du cinéma qu'on a bien du mal à voir, même à la Cinémathèque, et bon, qui sortent, il y en a, je sais pas, 10 qui sortent tous les ans comme ça. Les Keaton sont tous ressortis, mais les Griffiths, les Murnau, tout ça, tous ces grands chefs-d'œuvre, on les voit exceptionnellement. C'est des films qui sont en même temps complètement actuels, non seulement sur le plan esthétique et sur le plan du plaisir qu'on peut y prendre, mais bien souvent aussi sur le plan politique, idéologique. Si on prend Murnau ou si on prend Griffiths, on peut y apprendre des tas de choses aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant. Et il y a ce dont on parlait au début, enfin, tous les films qui sont pas sortis, qui vont sortir, oui ou non, enfin, on ne sait pas trop. En particulier dans les films qui, j'espère, vont sortir un jour. Il y a, bon, d'une part, le Godard ici et ailleurs, qui est, je pense, quelque chose de très important. Il y a un film qui a été réalisé par un groupe de gens qui travaillent à Vincennes, qui s'appelle L'Olivier, qui est un film sur la Palestine, qui est, je trouve, le premier film important et sur lequel il n'y a pratiquement pas critiqué qui a été fait sur le problème palestinien, qui est quelque chose de très remarquable, j'espère qu'il va sortir. Il y a d'autres films, il y a un film de celui qui est, à mon sens, le plus important des jeunes cinéastes américains actuels, qui est Monty Hellman, qui est un cinéaste presque totalement méconnu, je dirais, qui a fait... Je peux citer un film qu'il a fait pour situer un peu, enfin 2 ou 3 titres. Il a fait 2 westerns qui s'appellent Ride in the Whirlwind, l'ouragan de la vengeance, et The Shooting. Et il a fait aussi un film...
Macadam à deux voix.
Exactement, il a fait Macadam à deux voix, qui est un film remarquablement important aussi. Je sais pas combien de gens l'ont vu, mais enfin assez peu, je pense. Et c'est à mon sens le meilleur film du jeune cinéma américain actuel. Et il a fait il y a 2 ou 3 ans, je crois, un film qui s'appelle Born to Kill, ou bien aussi Cockfighters, c'est-à-dire sur les combats de coqs. Et un film qui est passé au festival de Deauville, et bon, est-ce qu'il va sortir, est-ce qu'il va pas sortir, on aimerait bien le savoir. Il y a des films... Alors si on commence à parler des films du tiers-monde, là ça devient insensé, proprement insensé. Simplement les films du Maghreb, les films du Proche-Orient, les films d'Afrique noire. Il y a le plus grand cinéaste d'Afrique noire, enfin à mon sens le plus grand cinéaste d'Afrique noire qui est Ousmane Sembène, qui a réalisé plusieurs films depuis 3 ou 4 ans. Ousmane Sembène qui avait fait Le Mandat, La Noire 2, qui est quelqu'un de très remarquable. Il a fait Emitai il y a, je ne sais plus, 3 ou 4 ans. Il a fait Xala il y a 2 ans. Ce sont deux films qu'on n'a jamais vus. Est-ce qu'on les verra? On aimerait bien le savoir. Si on se met à parler du cinéma chinois, du cinéma japonais, ça devient proprement insensé. Michel a parlé tout à l'heure fort justement de Boleyn. Il n'est pas le seul dans le cinéma français à faire des films qui ne sont jamais distribués. Il y en a d'autres comme ça. Ce que je dis au début, je crois...
aussi.
Ah bah Moulet, bien sûr. Je sais pas ce qu'il en est, où il en est actuellement, mais enfin Moulet, c'est
pas ses films.
Pratiquement, je me demande s'il continue à faire des films tellement ses films ne sont pas vus. Enfin, c'est aussi un gros problème. Si on peut remonter donc sur les films qu'on peut voir actuellement, donc La Cecilia, il me semble que c'est important aujourd'hui puisque c'est un film qui vient de sortir, que en plus c'est un premier film, il me semble que c'est très important de défendre La Cecilia. C'est un film qui a été réalisé par un rédacteur des Cahiers du cinéma, Jean-Louis Comolli. Donc, et c'est un film que je trouve important à plusieurs niveaux. D'une part, c'est un film que je trouve vraiment très beau, où j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est un film sur lequel on peut faire des critiques, mais qui est tout de même bien, bien fait. Il n'est pas parfait, genre il y a un certain nombre de choses qu'on peut lui reprocher sur un plan strictement cinématographique, mais il n'en reste pas moins que c'est un film qui sort quand même de la norme, même sur le plan de sa facture. Et bon, ce dont il parle, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Il parle du rapport entre la politique et la vie, il parle de l'utopie, il parle d'une collectivité. Je trouve que le fait que ce soit un film sur un groupe et non pas sur une colonie, puisque c'est la colonia, la Cecilia, sur une colonie et non pas sur quelques individus, c'est aussi assez symptomatique d'un certain cinéma qui n'est plus un cinéma de héros ou quelque chose comme ça. Bon, c'est une chose assez bateau, quoi, finalement, c'est le fait de plus avoir d'identification, ce genre de choses. Mais le voir concrètement sur l'écran, comme c'est dans le film de Comolli, je trouve ça extrêmement réussi. Alors, on a pu évoquer à son propos les Yang Cho, Taviani, des choses comme ça. C'est pas faux, évidemment, parce qu'il a été, il a vu leurs films, il les a aimés, il les a analysés, travaillés. Mais il y a un ton propre à Comolli, qui est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui, je trouve. Et il me semble qu'un cinéma politique pourrait aller dans cette direction. Il pourrait aller aussi dans 10 autres directions, mais cette direction-là est importante, je trouve. Je crois que Michel voulait aussi en parler.
Je suis absolument d'accord avec les trois films que tu as cités, La Cecilia, Milestones et le troisième.
Moïse et Aaron.
Pour abonder dans ton sens, on peut préciser que La Cecilia est un film historique. C'est l'histoire d'une commune anarchiste, une commune italienne, qui s'installe au Brésil dans la deuxième moitié du 19e siècle. Film historique, mais pas reconstitution historique, c'est pas le péplum, c'est pas Ben Hur. Et disons, une qualité de ce film, c'est que ce film a évité l'écueil d'une splendeur de l'image telle que Herzog peut nous en proposer, par exemple, dans Aguirre ou la couleur de Dieu. Comolli a évité la chatoyance, l'exubérance de la jungle, il a évité, et il nous donne cette histoire, il nous la présente comme une fable. C'est-à-dire qu'on voit un certain nombre de personnages, tous anarchistes, tous militants anarchistes, provenant aussi bien de la classe ouvrière que de la paysannerie, ou un intellectuel, ou plusieurs intellectuels. Ces personnages sont confrontés à une situation radicale, de rupture, où leur but est de mettre en pratique un certain nombre de principes communistes au sens anarchiste, au sens libertaire du terme. Évidemment, la leçon n'est pas donnée comme ça, de façon abrupte. Chaque spectateur, enfin le spectateur, doit lui-même construire sa propre leçon. C'est un peu comme dans les pièces de Brecht, où, par exemple, dans L'Exception et la Règle, la morale, puisque quand on parle de fable, on parle un peu de morale. La morale, c'est il n'y a pas de solution, trouvez le remède vous-même. Je pense que ce film met en jeu un certain nombre de positions, de points de vue, qui sont en même temps des contradictions au sein de la commune, des points de vue un peu plus autoritaires, organisationnels, ou des points de vue beaucoup plus anarchistes, des points de vue qui remettent en cause l'autorité. Mais en tout cas, ces problèmes, comme le dit un des personnages, nous avons des problèmes, mais nous n'avons pas de maître, nous n'avons pas de patron. L'expérience, pour des raisons économiques, politiques, est obligée de cesser au bout de 3 ans, mais la leçon essentielle, c'est pas qu'une expérience communiste n'est pas viable dans notre monde, c'est que en quelques mois, en 3 ans, les personnages qui l'ont vécu ont été radicalement transformés par cette expérience. Que leur conception du monde, leur rapport à la femme, à l'éducation, leur rapport au travail, s'est complètement transformé.
C'était le premier numéro du cinéma des cinéastes de Claude Jean-Philippe, avec tout d'abord François Truffaut et ensuite des étudiants de l'IDEC. Première diffusion, le 1er février 1976, sur France Culture.